This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de Oxio, le premier partenaire du balado Détour. Si vous cherchez un fournisseur d'Internet qui est transparent et abordable, une compagnie qui ne se fout pas de vous, il faut essayer Oxio. Visitez canadaland.oxio.ca et utilisez le code promo CanadaLand pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois. Bonjour, je suis Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de CanadaLand. Aujourd'hui, notre invité est Roméo Saganache, ancien député, avocat et militant CRI qui suit de très près, bien sûr, la politique sous tous ses angles. Bonjour Roméo.
Bonjour. Un moment historique.
C'est un très, très grand honneur de vivre ce moment historique qui est, bien sûr, le premier épisode de Détour avec toi comme premier invité. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de deux sujets principaux. Donc, le premier, c'est tout ce qui se passe autour, bien sûr, de la loi 96. On est en ce moment en train de vivre un autre grand moment de déchirement, de débat complexe au Québec sur la question de langue. Et le deuxième sujet dont on va discuter ensemble, la course à la direction du Parti conservateur et la façon dont on en parle dans les médias francophones. Bienvenue donc à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Caitlin Arahan, Greg Wolfe, Jean Broughton, Benjamin R. Scott, Nicholas Cole, Anka Badia, Drain Bryant et Madeline.
Bonjour, hi. My name is Madeline and I live in the NCR where I work in public and community relations for the feds. I am a day one CanadaLand listener and have long admired the network's proven commitment to improving its reporting and storytelling, especially as it has become less Toronto-centric and introduced a variety of voices besides Jesse's. J'ai augmenté mon don cette année parce que je souhaite vivement voir une émission en langue française présentée sur le réseau.
En point de presse à l'Assemblée nationale cet après-midi, des communautés autochtones, accompagnées de Québec solidaire et du Parti libéral du Québec, se sont opposées farouchement au projet de loi 96 du ministre Simon Jolin-Barrette.
L'adoption du projet de loi 96 va forcer l'exode de nos étudiants. Je veux dire, c'est une ironie renversante, là, que finalement les premiers occupants du territoire au Québec là, soient forcés d'aller étudier à l'extérieur de leur territoire.
La chef Mohawk de Kanawagé, elle n'hésite pas à utiliser le terme « génocide culturel » et se dit prête de passer de la parole aux actes si jamais Québec refuse de s'asseoir avec les Premières Nations pour négocier.
Depuis quelques mois, le Québec est en train de discuter, encore une fois, il n'y a rien de nouveau là, de langue et de langue française plus précisément. Le gouvernement du Québec a mis de l'avant un projet de loi, donc le projet de loi 96, de son vrai nom, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. C'est une loi qui vise à renforcer la loi 101 et qui a un ensemble d'impact. Donc, on cherche à assouvir à la loi 101 les plus petites entreprises, donc les entreprises de 25 employés et plus. On cherche à ce que les nouveaux arrivants soient tenus d'apprendre le français ou de se servir essentiellement des services publics en français après leurs 6 premiers mois d'arrivée. On inclut plus de cours de français dans les cégeps anglophones. On limite le nombre d'étudiants, donc la croissance des cégeps anglophones, on limite le nombre d'étudiants francophones et allophones qui puissent aller dans les cégeps anglophones. Donc, on fait un ensemble de choses qui suscitent énormément de débats. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui appuient la loi. Il y a des gens aussi qui sont contre. Il y a eu cette semaine, mardi, une grande manifestation à Kanawagi. Il y a eu aussi des grandes manifestations dans plusieurs cégeps aussi le week-end dernier. Et mardi, à l'Assemblée nationale, il y avait Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, ainsi que plusieurs chefs de différentes nations autochtones qui sont allés exprimer leur désaccord sur la façon dont le projet de loi aborde la question de la langue officielle et ses impacts sur les peuples autochtones. Donc, j'avais envie de démêler tout ça et de démêler aussi la façon dont on a parlé de ce débat-là dans les médias. Avant d'aller directement un peu plus loin dans la couverture médiatique de la chose, j'avais envie d'abord, Roméo, de commencer la discussion un peu plus loin pour les gens qui nous écoutent, là, de partir de la base pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que, d'abord, on va rentrer dans cet angle-là, pourquoi est-ce que des communautés autochtones qui critiquent la loi 96. Est-ce que ces manifestations-là, ces débats-là avaient déjà eu lieu lorsqu'il était question de l'adoption de la loi 101? Donc, Roméo, je te demande une introduction à politique linguistique québécoise et l'impact que ça a sur, bien sûr, les différentes communautés autochtones.
Merci pour la question et merci aussi pour cette aimable invitation de me joindre à toi pour cet premier épisode. On peut dire sans se tromper que les questions linguistiques, peu importe le peuple, peu importe la société, sont des questions tellement fondamentales pour l'identité d'un peuple ou d'une société. C'est pour ça que j'estime que ça prend des ampleurs sur le plan émotionnel tellement marquants. Alors, dans ce sens-là, je comprends très bien ce qui se passe. Si on revient à la loi initiale qui était la loi 101 à l'époque. Mm-hmm. Très peu de gens savent que la loi exemptait les institutions créées et les institutions inuites qui sont créées par un traité qu'on appelle la Convention de la Baie James et du Nord québécois. Donc, il y avait cette exclusion-là qui était prévue déjà à l'époque pour des raisons évidentes, je pense. Les créés, on a négocié la Convention de la Baie James avec plusieurs objectifs, dont le maintien de la langue, la culture, le mode de vie des Cris. Alors, c'est pour ça qu'on a cru bon de le faire de cette façon-là à l'époque. Et je pense que avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, M. Legault aurait pu penser de même vis-à-vis les langues autochtones au Québec. S'il y a des langues qui ont besoin de protection en ce moment, c'est bien les langues autochtones au pays. Il y a à peu près une cinquantaine de langues autochtones qui sont encore parlées au Canada. Et je te demande, sans vouloir te mettre la pression, je te demanderais, toi, si tu peux me dire combien de mots que tu sais, peu importe la langue autochtone, que tu connais.
Une 15, 20 peut-être.
Non.
Une chose comme ça, ouais.
C'est l'exception à la règle générale au Québec et au Canada, par ailleurs. Donc, c'est important d'aborder ces questions-là sous cet angle-là, à mon avis, pour les peuples autochtones. On a connu tout un développement en termes de reconnaissance des droits des peuples autochtones, depuis en particulier la loi constitutionnelle de 1982. On a eu plusieurs victoires importantes devant les tribunaux, incluant, bien sûr, la Cour suprême du Canada. On a maintenant, aujourd'hui, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée depuis 2007 par les Nations unies, l'Assemblée générale. On a une loi C-15, ceux qui portent justement sur cette question-là au niveau fédéral. Je pense qu'on a manqué une opportunité ici, le gouvernement du Québec et M. Legault, l'équipe de M. Legault, de réfléchir à cet aspect-là de ce débat. Je n'ai rien contre la protection de la langue française, je trouve. C'est une des plus belles langues du monde, après le cri, bien sûr. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à ces dimensions-là lorsqu'on discute de ces questions, malgré le fait que c'est des questions qui sont difficiles et délicates.
C'est intéressant, je pense, de partir de la discussion de là parce que je pense qu'on fait bien de rappeler parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent que donc, avec la Convention d'Abbé James, il y a les Cris, les Inuits et aussi certaines communautés Naskapi qui sont exclues de la loi 101. Donc, il y a une loi sur l'instruction publique, donc des Cris, des Inuits, des Naskapi qui inclut le fait que les langues sont importantes puis ensuite, on apprend le français pour permettre aux gens de continuer en français dans le système d'éducation supérieure dans le sud du pays, mais que ce n'est pas le cas des autres nations et que c'est surtout les gens de ces autres nations-là qui ont manifesté particulièrement cette semaine, quand je pense à ce qui s'est passé dans les communautés Mohawk, ici plus proche de Montréal, c'est que les gens ont peur et que essentiellement on leur impose plus de cours de français au cégep et que ça ait un incident sur le taux de réussite scolaire essentiellement des jeunes. Ces mêmes critiques-là avaient été faites aussi de la part d'un chef Mi'kmaq qui avait été présent aussi à l'Assemblée nationale pour dire un peu la même chose, c'est-à-dire pour un ensemble de régions, les gens parlent leur langue, ensuite l'anglais. Le français, c'est une troisième langue et si on l'exige plus, ça peut avoir un incident sur la réussite scolaire. Puis moi, ce qui m'a fascinée, en fait, quand je voyais cette conférence de presse-là et ensuite les articles qui en sont sortis, parce qu'on est dans une émission, bien sûr, d'analyse de ce qui se passe dans les médias, quand j'écoutais aussi les questions des journalistes, c'est comme si c'est difficile de comprendre d'où ces perspectives-là viennent. C'est comme si quand on essaie quand ce projet de loi-là est critiqué sous cet angle-là, c'est comme si c'est reçu comme une critique de la protection de la loi française ou c'est comme si c'est reçu comme si les Autochtones voulaient promouvoir l'anglais ou comme... On dirait qu'il y a un dialogue où on parle tellement pas des mêmes choses qu'on se comprend pas finalement. On comprend pas de quoi... C'est comme s'il y a un côté qui parle de pomme et l'autre côté qui parle d'orange. Je sais pas si... Comment tu analyses la façon dont on a parlé de cet enjeu-là cette semaine?
Mais voici la bonne nouvelle, Émilie.
On aime ça, les bonnes nouvelles.
Oui. Voici la bonne nouvelle. À l'époque de la Convention de l'Abbé James, c'est en vertu de ce traité, les Cris ont choisi d'enseigner, avec la création de la commission scolaire Cris, d'enseigner les enfants pour les quatre premières années de leurs études en Cris. Et les Inuits ont fait la même chose. Et on laissait le choix aux parents après la quatrième année scolaire, le choix aux parents de choisir entre le français et l'anglais. À une certaine époque, au début des années 80, les parents cris, pour ne prendre que cet exemple, les parents cris choisissaient à peu près à 80% l'anglais comme langue seconde. Aujourd'hui, c'est à peu près 50-50.
Ça a changé avec le temps.
Ça a beaucoup changé, ça a évolué, même à notre niveau. Alors, je sens que c'est une bonne nouvelle, ça. Alors, de plus en plus, de parents cris choisissent le français pour leurs enfants après la quatrième année de scolarité. Ce qui est bien, et j'approuve entièrement, on le voit déjà, la prochaine génération de leaders cris sont trilingues, ce qui est magnifique, autant pour nous que pour la société québécoise et vraiment du Québec. Donc, ça évolue. Je comprends qu'il y a une certaine insécurité dans tout ce débat-là chez les Québécois. C'est la même chose pour les Autochtones aussi. C'est pour ça que la défense de notre langue est aussi importante, peut-être même plus que les Québécois, parce que on est très peu qui parle encore des langues autochtones.
Tout à fait. Ça me fait aussi penser à la nomination de la gouverneure générale qui est Inuk, Mary Simon, et le fait qu'elle soit bilingue en Inuktitut et en anglais, qu'elle apprenne le français, c'est aussi quelque chose qui a suscité énormément de réactions dans les médias. Et donc, la reconnaissance des premières langues et de leur importance est quelque chose qui est là, on en discute, mais en même temps, c'est comme si... dépendamment de la façon dont c'est formulé, il y a des choses qui ressortent comme si c'était des attaques essentiellement contre la langue française.
J'ai très bien compris la réaction que les gens, quand ils ont saisi qu'elle ne parlait pas français, je comprends tout à fait cette réaction. Je pense qu'avec le temps, au Canada, nous nous sommes habitués à avoir des personnes haut placé, au moins bilingue. Mm-hmm. Au moins bilingue. Elle est bilingue, mais juste...
En anglais, oui.
Oui.
Je voulais aussi qu'on discute ensemble, Roméo, de la réaction que la loi 96 a suscité dans les médias montréalais. Et bon, commençons peut-être par la base. Là. C'est sûr que lorsqu'on discute de langue, pardon, au Québec, il y a différents médias qui ont bien sûr leurs différentes lignes éditoriales. Donc, on s'attend un peu de là où va venir les choses dans un débat comme sur la loi 96. Donc, d'un côté, disons, dans le camp le plus nationaliste qui va être le plus fort sur la défense de la langue française, il y a bien sûr Le Devoir. Dans le camp qui va le plus faire valoir les droits de la minorité historique, anglophone, il y a The Montreal Gazette. C'est intéressant parce que j'écris dans les deux, donc je me retrouve souvent dans des... C'est fascinant de voir ces deux univers-là cohabiter au Québec. Il y a bien sûr la presse aussi qui a bien sûr sa propre ligne auditoriale, mais aussi des chroniqueurs qui vont écrire là-dessus, et Québécois qui peut avoir beaucoup de chroniqueurs aussi qui ont une approche très nationaliste. Puis, une chose que j'avais vue cet automne qui m'avait vraiment fait réagir, qui avait fait couler beaucoup d'encre aussi, ce qui peut permettre peut-être d'illustrer cette dynamique-là là, entre la Gazette, le Devoir, la presse et les médias de Québécois, c'est que, en fait, Nakusset, qui est donc la directrice générale du Native Women's Shelter à Montréal, qui avait dit de la loi 96, qui avait fait un discours qui avait été rapporté par la Gazette, et son discours disait notamment qu'elle craignait que la loi 96 allait ajouter des barrières aux Autochtones au Québec qui font déjà face à la discrimination systémique dans le système de santé. Elle avait même dit qu'il allait pouvoir avoir des personnes qui allaient en mourir, qui n'allaient pas pouvoir répondre, se faire parler essentiellement en anglais, si c'est la langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise de communiquer avec les services publics. Et d'un autre côté, tout de suite, tu avais Patrick Lagacé, qui est souvent très fort, donc un chroniqueur de la presse, qui est souvent très fort pour parler des enjeux de langue française, qui a essentiellement, poliment quand même, mais très fermement dit que Nakusset est en train essentiellement de faire une campagne de peur en disant des choses comme ça, parce qu'il n'y avait rien dans la loi qui empêchait les gens de parler en anglais au service du 911. Puis, je pense que c'est tellement parlant comme exemple, parce que d'un côté, essentiellement, on a une personne qui dit « Moi, je vois sur le terrain de la discrimination systémique qui est pire quand c'est envers des Autochtones qui parlent anglais. » Ça, c'est la réalité que je vois sur le terrain. Puis il y a une personne qui dit cette personne-là est en train de faire une campagne de peur parce que c'est pas dans la loi, et cette personne-là a raison que c'est pas dans la loi. Mais ça invalide pas la réalité du terrain. Puis il y a rien dans la loi qui va aussi améliorer la réalité du terrain. Donc, encore une fois, c'est comme... On dirait que tu as des perspectives où il y a des gens qui énoncent des craintes. Mais ces craintes-là sont basées dans un contexte social qui n'est pas nécessairement, bien sûr, dans la loi ou même dans l'intention du législateur. Puis d'un autre côté, dans les médias francophones, il y a beaucoup de... C'est, l'exemple de Patrick Lagacé, c'en est un, mais il y en aurait d'autres qu'on pourrait trouver, des gens qui disent essentiellement, ben c'est pas dans la loi, donc vous avez tort de vous inquiéter. Et d'un côté comme de l'autre, moi, tout ce que je vois, c'est comme un clivage social qui risque simplement de s'élargir avec le temps, en fait.
C'est très bien résumé, la situation actuelle dans les médias, que je comprends fort bien. Lorsqu'on on a un projet de loi comme le projet de loi 96 devant nous, c'est sûr que les anglophones vont le regarder d'une perspective, la même chose du côté francophone. Leur perspective va être autre chose dans ce débat-là. Je comprends très bien tout ça. Mais souvent, la question m'a souvent été posée, pourquoi est-ce que les CRI parlent anglais alors qu'ils sont au Québec? Alors, on semble oublier également que toute l'histoire coloniale qui est derrière les raisons pourquoi les Atikameks ou les Innus parlent français, pourquoi les CRI parlent anglais comme langue seconde, on semble oublier cette partie de notre histoire si on veut parler des choses communes. Mais au-delà de ces débats d'un côté ou de l'autre, à l'étape où nous sommes rendus avec la loi 96, la loi risque de passer cette semaine. Et je pense qu'on doit suivre ça de près et voir les réactions des anglophones, des juristes, mais également des peuples autochtones. Ça vient chercher beaucoup de choses chez beaucoup de personnes, de façon différente, bien sûr, chez beaucoup de personnes, mais ça vient nous chercher. Mais je pense que c'est important de voir les réactions qu'on va recevoir lorsque la loi sera adoptée, possiblement cette semaine.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de Oxio, le premier partenaire du balado Détour. La transparence, c'est essentiel chez Oxio. C'est pas toujours évident de magasiner un fournisseur d'Internet, mais chez Oxio, vous êtes entre bonnes mains. L'équipe s'engage à vous offrir toute l'information qu'il faut pour choisir le fournisseur d'Internet qui vous conviendra le mieux, même si ça veut dire que vous choisissez un fournisseur autre que Oxio. Oui, vraiment, ils sont transparents à ce point-là. Visitez canadaland.oxio.ca pour choisir l'Internet d'une compagnie que vous pourriez réellement aimer. canadaland.oxio.ca et utilisez le code promo CANADALAND pour essayer gratuitement Oxio pendant un mois pour voir si ce n'est pas un bon fit pour vous. En plus, Oxio vous offre 60 jours d'essai sans risque. Si vous n'aimez pas ça, Oxio vous rembourse tout votre argent. C'est aussi simple que ça. Un grand merci à Oxio pour ce premier partenariat avec Détour. Alors, Roméo, qu'est-ce que tu voudrais qu'on garde en tête cette semaine?
On approche une élection au Québec bientôt. Et moi, ce qui m'intéresse de voir dans cette élection, c'est parce qu'il y a plusieurs députés qui ont annoncé leur retraite, qui ne se représenteraient pas lors des prochaines élections provinciales. Et par conséquent, ça va être très intéressant pour moi de voir qui va se présenter, qui seront les nouveaux candidats qui vont se présenter. J'ai une petite idée de certaines personnes qui pensent faire le saut au Québec.
Oh.
Oui, tout à
on
fait.
Alors,
ça va être intéressant de voir qui seront les candidats pour quel parti à la prochaine élection provinciale au Québec.
Mais on a beaucoup parlé aussi dans les médias, dans les dernières semaines, de la vague des départs. Là. Surtout, il y a des gens qui quittent ou qui annoncent en fait qu'ils ne se représenteront pas dans tous les partis presque. Mais particulièrement donc au Parti libéral du Québec, où justement les vétérans, les gens qui sont là depuis longtemps, il y a presque la moitié des députés actuels du Parti libéral qui ne vont pas se représenter. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui suscite aussi beaucoup de commentaires. J'ai vu un article super intéressant passer dans le 24 heures aussi, qui se pose la question des femmes aussi, spécifiquement qui sont en train de quitter la vie politique. Est-ce que ces femmes-là quittent parce qu'elles sont notamment tannées du Boys Club? Donc, il y a cette analyse-là aussi qui est en train de se faire en ce moment. Puis, c'est sûr que regarder qui va être les nouveaux visages va aussi faire, bien sûr, j'ai hâte de voir ça.
Une des choses que j'aimerais voir aussi dans tout ça, vous savez, la dernière élection fédérale, nous avions eu un nombre record de candidats autochtones dans les différents partis fédéraux.
C'est vrai.
Et donc, et présentement, je pense qu'il y a une dizaine qui ont été élus. Ça serait, j'aimerais tant ça voir des candidats autochtones pour l'élection au Québec également. T'sais, on n'a pas eu assez dans le passé de candidats autochtones lors des élections. Et j'aimerais ça voir cette nouveauté. Je pense qu'on risquerait d'avoir des belles surprises si c'est le cas.
C'est bien noté, Roméo.
Et toi, Émilie, qu'est-ce qu'on doit surveiller cette semaine?
Ce que j'ai gardé en tête cette semaine, c'est pas tant quelque chose à surveiller, honnêtement, qu'il y a quelque chose... que j'ai de la difficulté à me sortir de la tête, pour être honnête avec toi. Quand j'ai vu la mort annoncée, l'annonce plutôt de la mort d'André Arthur, j'ai eu toutes sortes de réactions épidermiques, pour être honnête avec toi, comme fille de la région de Québec. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas peut-être André Arthur, c'est un peu comme le père ou même peut-être le grand-père, on va dire ça comme ça, de la radio parlée à Québec. Donc, qui est un style de média extrêmement particulier qu'on appelle souvent au Québec, donc radio poubelle. Bien sûr, ce n'est pas tous les médias de Québec qui sont là-dedans, mais il y a plusieurs stations et plusieurs animateurs qui ont créé un style de radio où on, je sais pas si j'appellerais ça vraiment en fait du journalisme d'une part, et d'autre part, il y a plusieurs animateurs qui ont un historique d'attaques répétées envers les femmes, envers les homosexuels, envers les minorités, envers les Arabes, envers les Noirs, envers les Autochtones, envers les cyclistes, envers les pauvres, envers à peu près tout ce qui bouge à Québec. Ça crée un climat social assez particulier. Puis André Arthur, c'est une personne qui est connue pour avoir fait ça et pour avoir un peu lancé ce style-là. Il y a eu plusieurs émules, plusieurs imitateurs ensuite. Puis c'était un peu particulier de voir, en fait, l'annonce de sa mort puis la façon dont ça a été traité, parce que c'est comme si on veut respecter une personne qui vient de décéder, ce qui est normal. On veut aussi épargner ses proches, ce qui est normal. Mais ça donne lieu à des textes où on annonce que André Arthur est décédé. Puis on utilise des mots extrêmement vagues pour décrire ce qu'il a fait, ce qu'il a dit dans sa carrière. Le fait, écoute, c'est une personne qu'on s'est rendu, il y a des cas de diffamation, des choses qu'il a dit, par exemple, à la fin des années 90 sur les chauffeurs de taxi arabes et noirs, des choses tellement racistes que ça s'est rendu en Cour suprême, là, en termes de procès en diffamation. Et puis, c'est comme si tout ça, le langage précis, le fait qu'il avait été renvoyé pour des propos homophobes à Québec qui associaient essentiellement la communauté gay au sida, tout ça a comme été effacé parce qu'on voulait pas dire, parler en mal de cette personne-là, alors que cette personne-là essentiellement a parlé en mal de tellement de monde, comme toute sa vie. Même le dernier tweet qu'il a fait avant de mourir, c'était de parler en mal des infirmières qui prenaient soin de lui à l'hôpital. Donc c'est comme si il y a eu une difficulté, il y a vraiment une difficulté à dire, OK, mais comment est-ce qu'on fait dans les médias pour raconter qui est ce personnage-là? Mais il y a eu plusieurs personnes qui étaient un peu, on dirait, comme paralysées par le fait qu'une personne méchante est décédé, puis qu'on ne veut pas parler en mal des gens qui viennent de décéder. Et faire la part des choses dans les médias, dans une situation comme ça a été extrêmement complexe dans les derniers jours.
C'est noté.
Merci. Nous sommes, bien sûr, en pleine campagne à la chefferie du Parti conservateur du Canada. C'est une campagne qui intéresse certaines personnes plus que d'autres. Je vais commencer peut-être par dire ça, qui est très couverte. Moi, ce que je remarque d'abord, c'est qu'elle est très beaucoup plus couverte en anglais qu'en français, parce que de façon générale, on a tendance à plus couvrir l'actualité fédérale en anglais qu'en français. En français, on insiste plus sur l'actualité provinciale, ce qui peut être fatigant aussi, il faut le dire, pour les personnes qui sont francophones et qui ne sont pas au Québec et qui voient les médias parler beaucoup d'actualité provinciale québécoise. On comprend pourquoi c'est le cas, mais je pense que c'est important de le noter. Donc, on en parle un peu moins au Québec et quand on en parle, bien, on en parle différemment. Il y a un ensemble de raisons aussi tout à fait logiques pour ça, notamment le fait que Jean Charest, comme ancien premier ministre du Québec, est une personne qui suscite beaucoup de passion au Québec. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'haïssent aussi avec beaucoup de force.
Selon vous, c'est quoi son plus grand accomplissement en politique?
Partir. Avoir chié notre économie.
D'avoir fait son possible pour nous caler, comme toutes les hosties de libéraux. Ça continue.
J'ai entendu ça récemment. Apparemment, il n'y a rien accompli. J'ai l'impression qu'il a détruit plus que d'autres choses.
Donc, Roméo, avant de décortiquer tout ça, j'avais envie peut-être d'ouvrir, de prendre aussi un pas de côté pour te demander d'abord, de façon générale, lorsqu'il est question de parler d'actualité fédérale, comme personne qui a été députée à Ottawa, est-ce que tu vois une différence dans la façon, avant même de parler des conservateurs, est-ce que tu vois une différence dans la façon dont on traite l'actualité fédérale dans les médias en français et en anglais, et quels sont les défis que ça pose?
Oui, il y a toujours une différence. Je l'avais même remarqué avant de devenir député en 2011. Donc, et surtout, lorsqu'on avait encore des journaux en papier devant nous, j'ai imposé au CRI de s'abonner à tous les journaux. Mathieu Concombe, à une certaine époque, lorsqu'il était grand chef, me disait, ouais, mais pourquoi National Post? National Post, c'est pour les Autochtones. Tu vois, il dit au contraire, justement, nos critiques, il faut entendre nos critiques, ceux qui nous critiquent, il faut entendre ceux qui sont contre nos droits, contre nos peuples, pour bien saisir de quoi il s'agit, le problème. Alors, c'était fascinant comment la couverture au Québec était différente, la couverture nationale. Sur les questions autochtones, on n'avait pas beaucoup à une certaine époque. Aujourd'hui, quasiment tous les jours, on a un article dans les journaux qui traite des questions autochtones.
Ça a changé dans les dernières années.
Ça a beaucoup changé. Alors, tant mieux. Tant mieux.
Moi, j'avais envie de discuter de ça avec toi à ce niveau-là, à 10 000 pieds dans les airs, on va dire ça comme ça, avant de rentrer dans la course au Parti conservateur, parce que c'est le premier épisode de Détour, puis que Détour, c'est une émission qui cherche justement... on ne va pas seulement parler toujours complètement des médias francophones et certainement pas seulement toujours aussi de ce qui se passe spécifiquement au Québec. Mais je pense que c'est important pour les gens qui sont habitués d'écouter Canada Land sur les autres émissions de partir de là. Juste en ce moment, je vois la campagne, l'Ontario est en campagne électorale, puis même dans les médias ontariens, j'ai l'impression qu'on parle plus de ce qui se passe à Ottawa qui est pas en campagne et que qu'on parle de ce qui se passe dans la campagne à la chefferie conservatrice plus que la campagne électorale provinciale, alors que tu verrais jamais ça en français. Même lorsque on n'est pas en campagne électorale, c'est François Legault et ce qui se passe à l'Assemblée nationale qui prend le plus de place. Et donc aussi, même lorsqu'on parle dans la course à la chefferie conservatrice, on va faire des liens souvent avec l'impact que ça a sur l'actualité provinciale. Je peux donner un exemple concret de ça. C'est sûr que Jean Charest vient du Parti libéral du Québec, dont il a été le chef et aussi premier ministre durant plusieurs années. Puis sa carrière s'est terminée sur une note. Dans le fond, il a perdu son propre comté d'abord. Et il y a eu toute une série donc de commissions sur le régime de financement du Parti libéral lorsqu'il était au pouvoir, qui fait en sorte qu'il y a eu plusieurs articles de journaux qui sont sortis depuis que Jean Charest est rentré dans la course au Parti conservateur, qui regarde c'est quoi l'impact que ça a sur le Parti libéral du Québec essentiellement, qui va être en campagne électorale cet automne. Puis on se dit, mais est-ce que le fait que Jean Charest est de retour en politique va nuire en fait aux chances du Parti libéral du Québec? Puis je trouve ça intéressant parce que quand je regarde les médias anglophones, c'est comme si Jean Charest se présente lui-même comme la personne qui parle pour le Québec et qui est le candidat du Québec. Alors que dans les faits, quand je regarde la couverture médiatique francophone de la course à la chefferie, il y a aussi beaucoup de commentaires négatifs qui s'écrivent sur Jean Charest et qui revient aussi sur son héritage politique. Est-ce que tu vois aussi cette espèce de dichotomie-là dans le discours?
J'ai connu Jean Charest à une époque où il était ministre de l'Environnement dans le gouvernement de M. Mulroney, je crois. Ce qui s'est passé dans le passé avec Jean Charest, les gens probablement ont déjà oublié. Ça prend des gens comme nous qui rappellent qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, de bien et de moins bien dans le passé. Donc, mais juste le fait d'avoir un candidat québécois dans cette course à la direction du parti, je pense qu'on a à ce moment-là plus tendance à suivre ce qui se passe à ce niveau-là aussi.
Quand il n'y a pas de candidat québécois dans une course, ça a une grosse influence sur la couverture de cet événement-là en français. Si on regarde maintenant comment est-ce qu'on en parle en français, parce que ça serait très, très faux de dire qu'on n'en parle pas, je vais juste dire que c'est moins souvent, disons, la une du journal en français qu'en anglais. La façon dont on en parle, ce qui ressort, en fait, c'est beaucoup les positions, bien sûr, surtout de Poilievre et de Jean Charest. Les autres candidats sont beaucoup moins mentionnés. Au niveau de Québécois, il y a plusieurs articles qui ressortent, qui replongent essentiellement dans l'héritage de Jean Charest d'une façon qui est assez péjorative. Il y a la même chose qui se passe, mais à un moindre degré peut-être, mais quand même au niveau du Devoir. Il y a aussi beaucoup de couvertures des annonces qui sont en lien avec tout ce qui touche aux pipelines puis à l'environnement. C'est quelque chose qui est un sujet qui est particulièrement sensible au Québec. Il y a quelques semaines, Jean Charest avait fait une annonce d'ailleurs sur les médias sociaux, c'est quelque chose qu'il répète souvent, qu'il a déjà construit des pipelines et que s'il était élu à la tête du Parti conservateur, il en construirait d'autres. Et c'est intéressant parce que ça suscite en fait des réactions extrêmement divisées au Québec. On sait qu'il dit ça pour s'adresser à une audience essentiellement plus dans l'ouest du pays, mais c'est comme si ça backfire sur la façon dont on discute de sa campagne dans les médias québécois. Donc, c'est comme si, en fait, on est habitué d'avoir Jean Charest qui parle en français à une audience francophone, puis là, maintenant, qui parle surtout en anglais et qui essaie de courtiser l'ouest du pays parce qu'il prend un peu la base conservatrice du Québec pour acquis. Puis je pense qu'il a raison de le faire. Ça fait en sorte qu'il dit des choses en anglais qu'il ne disait vraiment pas de cette façon-là lorsqu'il parle en français.
Oui, c'est tout à fait juste et ça m'amuse parce que pendant la course et après l'élection de Thomas Mulcair à la direction du NPD, c'est ce qu'on l'accusait de faire également, de dire une chose au Québec et dire autre chose dans le reste du Canada. On l'accusait de ça aussi.
Est-ce qu'on l'accusait ou est-ce qu'on avait raison? Est-ce que quand ce genre de phénomène-là de politiciens du Québec qui tout d'un coup se passent en politique fédérale, est-ce que les gens adaptent vraiment leur discours ou...
Cela relève du fait que les médias anglophones sont plus intéressés par des choses qui sont différentes de ce que le Québec est intéressé à entendre. Donc, les questions qui proviennent des médias du Québec sont souvent différentes des questions qui sont posées par les journalistes anglophones. C'est ce qui explique. C'était pas tout à fait juste comme accusation, à mon avis.
Non, c'est ça. Mais en fait, c'est intéressant de voir comment est-ce que cette perception-là se fabrique. Parce qu'en fait, c'est ça. Si les journalistes posent des questions différentes, parce qu'on est dans deux cycles de nouvelles différents, ben, la réponse aux questions va être différente. C'est sûr qu'un observateur pas avisé va avoir l'impression qu'on a, en fait, deux choses différentes qui sont dites. C'est juste que, en fait, il y a peut-être des choses qui sont dites en français. Il n'y a personne qui reprend ça pour en faire son texte, puis quand on dit en anglais, c'est ça qui ressort, et vice-versa.
Oui. Mais j'ai surtout hâte de voir comment le débat en français va être traité dans le reste du Canada. C'est sûr qu'il va y avoir un intérêt au Québec pour ce débat en français. J'ai très hâte d'entendre les autres candidats, outre Charest et Pierre Poilievre, en français. Je sais que son français est quand même très bien.
Non, c'est ça. Pierre Poilievre étant, venant d'une famille franco-albertaine, là, donc c'est toujours intéressant dans ce genre de débat-là de regarder est-ce qu'on va parler, en fait, du contenu ou on va juste analyser le niveau de langue des candidats. Parce que c'est souvent ça aussi qui se passe à la fin des débats en français, c'est que l'analyse porte sur le contenu, mais elle porte aussi beaucoup sur la grammaire et le niveau de langue des gens. Et qui a dit qu'il prenait des cours de français, à quelle fréquence? Est-ce que ces cours-là donnent un niveau d'aisance? Il y a une préoccupation dans les analyses, dans les médias francophones, d'avoir un premier ministre qui va être bilingue. Donc, ça mène à des analyses qui se font sur la forme presque autant que sur le fond.
Alors oui, les gens portent attention à ça. Alors, c'est pour ça que M. Trudeau n'aurait pas eu de problème à me nommer gouverneur général, étant donné mon français, mon anglais et mon cri.
Pourquoi il n'a pas fait ça?
Non.
Oui, il m'a posé la question.
J'aurais décliné de toute façon.
Oui. Mais au moins, tu sais, c'est pas d'avoir la chance de décliner.
Ouais, c'est ça. Ça fait une bonne histoire de famille, après.
Donc voilà, c'est tout pour le premier épisode de Détour. Un grand merci, Roméo, d'avoir été là avec nous. Roméo Saganache, si les gens qui veulent te trouver, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
Instagram, Twitter. J'ai un téléphone, mais je ne donne pas de mon numéro.
Et bien sûr, tu fais aussi partie du Backbench, donc une autre émission canadienne auquel tu participes une fois de temps en temps. Vous pouvez, bien sûr, m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com, puis vraiment prendre le temps de nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos réflexions, vos commentaires, vos suggestions, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'émission plus intéressante pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de francophones qui nous écoutent, il y a aussi beaucoup de gens qui s'étaient engagés à nous écouter, qui n'ont pas le français comme langue maternelle, des gens de partout au pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'émission plus accessible pour vous? C'est quelque chose que j'ai envie de savoir aussi. Et bien sûr, vous pouvez trouver Canadaland sur Twitter de manière générale et écouter les autres émissions. Cet épisode a été produit par Nancy Pettinicchio avec l'assistance de Tristan Capacchione. La musique du générique est par So Called et les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web, c'est cfuv.ca. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager sur vos réseaux et en parler à vos proches. Surtout parce que c'est le premier, c'est encore plus important que d'habitude de le faire. Et on vous remercie grandement de soutenir Canada Land. Un grand merci à Oxio, le premier partenaire du balado Détour, pour son soutien généreux. Oxio s'engage à être le meilleur pour toujours et pas simplement le moins cher aujourd'hui. Avec des prix justes, tout le monde dans votre région paie les mêmes tarifs. Leur service à la clientèle est aussi hors pair parce que chez Oxio, être fin, ça ne vient pas en option. Visitez canadaland.oxio.ca et utilisez le code promo CanadaLand pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois pour voir si c'est un bon fit pour vous. C'est aussi simple que ça.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.